Merci d'écouter RFI. 8h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi. Anne Contner.
RFI Midi, dernière partie sur le continent américain. Vous pourrez entendre un témoignage exceptionnel, celui d'un homme qui a assisté aux événements de Cité Soleil en Haïti sur ordre du chef de gang qui contrôle les lieux. Cette tuerie au cours de laquelle plus de 180 personnes au moins ont été tuées en quelques jours. Son récit, juste après le journal. Haïti, on en parlera aussi avec le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, invité de RFI aujourd'hui. Nous reviendrons ensuite sur l'ampleur du narcotrafic en Uruguay avant de faire le point sur l'actualité des Outre-mer et la modernisation de l'aéroport international en Martinique, Benoît Ferrand.
Oui, Aimé Césaire s'agrandit, 20 000 mètres carrés supplémentaires et des installations rénovées. À suivre le reportage de nos confrères de la Première Martinique.
À tout à l'heure. Et d'abord, donc, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
En Syrie, pour commencer, où les hommes du groupe HTS contrôlent désormais la ville de Deir ez-Zor dans l'Est.
Oui, alors qu'une trêve est observée dans le nord du pays entre milices pro-turques et kurdes, au sud de la région autonome kurde, les rebelles islamistes qui ont fait tomber Bachar al-Assad ont donc repris cette ville de Deir ez-Zor. Les forces kurdes se sont retirées hier soir après moins d'une semaine d'occupation. Le point avec Théo Renaudon.
Depuis quelques jours, les habitants de Deir ez-Zor, ville à majorité arabe, manifestaient contre les forces d'occupation kurdes. Vidéo de médias locaux d'une foule massive devant ce qui semble être des militaires des FDS, forces démocratiques syriennes, qui ont profité de la fuite des hommes de Bachar pour s'accaparer la ville la semaine dernière. C'est donc maintenant, selon plusieurs sources, le nouveau pouvoir de Damas qui administre la ville de Deir ez-Zor depuis ce mardi soir. Le groupe islamiste HTS, désormais donc au pouvoir à Damas, n'ouvrira pas tout de suite, en tout cas de front, face aux Kurdes, analyse l'expert syrie Boris Jam.
HTS ne travaille pas sur ce front, même si ce n'est pas un front militaire. Ils sont vraiment sur des questions qui concernent pour l'instant toute la côte syrienne. Et il y a forcément pacte de non-agression.
Reste que l'idéologie des HTS, c'est le nationalisme arabe, fondamentalement incompatible avec l'idée d'une région autonome pour les Kurdes en Syrie. La paix entre nouveaux pouvoirs de Damas et Kurdes est donc précaire.
Théo Renaudon, Mohamed al-Bachir est le nouveau Premier ministre syrien, Premier ministre de transition. Il se veut rassurant, lendemain de sa nomination. Les droits de toutes les confessions présentes en Syrie seront garantis. Il en prend l'engagement dans une interview au quotidien italien Corriere della Sera. Il s'adresse aussi aux millions de Syriens obligés de quitter leur pays depuis le début de la guerre civile en 2011. Le Premier ministre chargé de la transition leur demande de rentrer chez eux afin de permettre au pays de prospérer. Il compte sur leur capital humain et sur leur expérience. L'agence de l'ONU pour les réfugiés les a dénombrés. En une décennie, plus de la moitié des Syriens ont pris le chemin de l'exode, soit 13 millions de personnes. La vie a repris son cours dans la capitale d'Al-Bas où les commerces sont rouverts. Mais pour de nombreux Syriens, la priorité reste la recherche de proches disparus et victimes de la répression féroce du clan Assad durant de longues années.
Dans le sud de la Syrie, cette fois, l'électricité fait cruellement défaut.
C'est si vrai que dès que le soleil se couche, toute cette région du sud est souvent plongée dans le noir. Depuis 14 ans, les habitants n'ont plus le droit aux fournitures publiques. Ils dépendent de l'énergie solaire qu'ils collectent le jour afin de recharger leur batterie. Reportage à Dera de Mohamed et Rami.
Faire fonctionner son frigo, faire tourner une machine ou simplement recharger son téléphone est devenu un combat de tous les jours pour Abou Mahan, un des habitants de la localité de Nawa. Avec moins d'une demi-heure d'électricité par jour depuis près de 14 ans, ce père de famille a dû s'adapter.
Seuls ceux qui ont de l'argent dans le sud peuvent acheter de l'énergie solaire et obtenir de l'électricité. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'électricité. Ils ne peuvent pas recharger les batteries, allumer la télévision ou éclairer leur maison. Les centrales de production sont inactives à cause des bombardements et du vol de câbles.
Le problème ne s'arrête pas à l'électricité. Plus de 2 millions de Syriens du sud souffrent depuis de nombreuses années d'une pénurie d'eau, ce qui les oblige à acheter cette denrée à des revendeurs qui les puisent grâce à des panneaux solaires et un moteur électrique eux-mêmes dépendant du soleil. Problème, l'eau est souvent impropre à la consommation, comme l'explique Samira Khader, femme au foyer.
Nous achetons de l'eau dans des puits privés pour assurer nos besoins en matière de tâches ménagères et de nettoyage, et nous ne gardons que quelques litres pour boire ou pour préparer le thé. Et souvent, nous restons des semaines sans eau, ce qui accumule la saleté, les vêtements sales, soit parce qu'elle n'est pas disponible, ou bien parce que nous n'avons pas l'argent pour acheter de l'eau.
La guerre menée par l'ex-régime de Bachar al-Assad à partir de 2013 contre l'armée libre syrienne qui tient la région est la cause principale de l'absence d'eau et d'électricité de la plus grande ville du sud syrien. Mohamed Erami, Dera, RFI.
En Argentine, cela fait un an que Javier Milei est arrivé au pouvoir.
Oui, l'occasion pour le président ultralibéral de prononcer un discours. Javier Milei, qui préside aussi l'Alliance du Mercosur, a notamment déclaré qu'il souhaitait conclure l'an prochain un accord de libre-échange avec les États-Unis. Explication Anne Verdaghi.
Le dirigeant argentin de tendance ultralibérale a estimé qu'un tel traité aurait dû être conclu il y a 19 ans et qu'il s'efforcerait d'accroître l'autonomie des pays du Mercosur face au reste du monde. Rien ne dit cependant s'il négociera seul cet accord avec les États-Unis ou s'il a prévu d'inclure ses partenaires du Mercosur, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. L'organisation n'autorise aucune négociation bilatérale sans l'accord des autres membres. Le président argentin a aussi souligné ses réussites nationales dans la lutte contre l'inflation et l'endettement, même si sa politique économique de coupe nette dans les dépenses publiques et les subventions a fait augmenter la pauvreté de 50% et accentuer la récession. Parmi ses nouvelles propositions, il promet de supprimer 90% des impôts dès l'an prochain et d'aller encore plus loin dans sa politique de réforme en supprimant certains organismes et postes publics. Enfin, il souhaite un système financier dans lequel tous les Argentins pourront utiliser la monnaie de leur choix, ouvrant la voie à la libre concurrence des devises et à l'assouplissement des restrictions sur les achats en dollars.
Anne Verdaghi en France. Un dernier conseil des ministres pour Michel Barnier avant de connaître son successeur. L'éphémère Premier ministre et son gouvernement se sont retrouvés une ultime fois ce matin au palais de l'Élysée. Le président Macron a promis de nommer au plus tard demain le nouveau chef du gouvernement, sans doute dès aujourd'hui d'ailleurs, compte tenu du voyage officiel qu'il doit effectuer en Pologne. Ce matin, au conseil des ministres, le chef de l'État a prévenu que le socle de partis qui soutenait l'exécutif de Michel Barnier n'avait pu être élargi en l'état. Ce socle comprend, on le rappelle, le camp présidentiel et la droite.
Des bisbilles entre deux grands voisins.
Oui, Donald Trump aime beaucoup taquiner son voisin canadien. Il vient de décerner sur son réseau social Truth le titre de gouverneur d'un État américain au Premier ministre Justin Trudeau. Il y a 10 jours, lors d'un dîner dans sa résidence de Mar-a-Lago, il lui avait proposé une méthode infaillible pour échapper aux surtaxes qu'il menace d'imposer aux produits canadiens. Tout simplement, le Canada n'avait qu'à devenir le 51e État des États-Unis. Un humour que les élus canadiens n'ont pas l'air d'apprécier. Pascal Guéricola.
Le malaise est palpable au gouvernement car l'identité canadienne est un point sensible. Je sais à quel point j'ai la chance d'être canadienne, a déclaré la vice-première ministre lorsque les journalistes l'ont interrogée à propos des blagues de Donald Trump. On connaît le personnage, a répliqué de son côté son collègue au service public, tandis que le ministre de l'Immigration se faisait plus sarcastique. Selon lui, cette déclaration ressemble au dessin animé South Park, connu justement pour ses blagues sur le Canada. Bref, les dirigeants canadiens n'ont pas l'air de vouloir mordre à l'hameçon tendu par Donald Trump. Donald Trump, que certains chroniqueurs comparent à un intimidateur de cour d'école, à ignorer. Cependant, la proposition du président désigné de transformer le Canada en 51e État américain ne tombe pas totalement à plat. Selon un sondage en ligne, 13% des Canadiens, surtout ceux qui soutiennent le Parti conservateur, verraient volontiers leur pays rejoindre la bannière étoilée. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Ainsi s'achève le journal. Merci d'avoir écouté. 14h09 ici à Paris, l'heure de retrouver Anne Contenaire pour la suite d'RFI Midi.
Merci Gilles Moreau. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes sur RFI. Et pour l'heure, nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et aujourd'hui encore, nous revenons sur le massacre commis à Cité Soleil avec un témoignage très rare, extrêmement rare, étant donné la mainmise totale du gang de Mykhanor Altès. C'est vous qui l'avez recueilli, Vincent Souriau. Bonjour.
Bonjour.
Ce quartier de Wharf Jérémy, c'est vraiment une zone de non-droit, il faut le rappeler, et il a été le théâtre d'une tuerie, d'une violence inouïe. Au moins 184 morts, c'est ce que disent les Nations Unies. Des personnes âgées, pour la plupart, raflées puis exécutées pendant plusieurs jours. On a très peu de détails, mais vous avez pu parler à un témoin, donc Vincent, un homme qui a tout vu.
Oui, il nous parle sous couvert d'anonymat. Il nous raconte qu'il a vu vendredi dans l'après-midi une foule de 200 à 300 personnes encadrées par des hommes en armes dans le centre de Warf Jérémy, des civils forcés de défiler devant ce chef de gang assis sur une chaise pour un simulacre de jugement. Par mesure de sécurité, la voix de notre source a été doublée.
On lui amenait les gens un par un et il leur demandait « Est-ce que tu es malfaisant? Est-ce que tu fais de la magie noire ?» Et s'ils pensaient que oui, on leur attachait les mains dans le dos et on les mettait à l'écart.
Ce soir-là, près de 80 personnes ont été exécutées de sang-froid au prétexte qu'elles pratiquaient le vaudou. Notre source a réussi à s'enfuir, elle n'a pas assisté à ces mises à mort. Mais d'après ce qui lui a été rapporté, c'est Mikanor Altes en personne, le chef de ce gang, qui a pratiqué ces assassinats.
Et le massacre a continué le lendemain.
Oui, dès 6h le samedi matin, des rafles dans tout le quartier, au moins 50 morts le deuxième jour, tués à la machette et au pistolet. Un carnage inouï. Né dans l'esprit de Mikanor Altes après la mort de son nouveau-né qui l'aurait forcé à tuer tout le monde.
Il prétendait que son fils était mort à cause d'une malédiction et que pour en sortir, il devait faire un pacte avec le diable. Il l'a dit à plusieurs reprises pendant ce faux procès.
Folie meurtrière qui a duré jusqu'à lundi soir quand les hommes de Mikanor Altes sont passés en ville avec un mégaphone pour faire savoir à la population terrorisée que la vie à Warf Jérémy allait pouvoir reprendre son cours normal.
Mais depuis, la population à Warf Jérémy et plus généralement dans la capitale est toujours sous le choc, c'est la sidération, surtout parmi les proches des victimes, comme cette jeune fille. Elle parle de son père.
Mikanor a envoyé deux motos alors que mon père était assis devant la maison. Ils l'ont appelé. Mon père a dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai de problème avec personne. Je suis innocent. » Il est allé les voir, la conscience tranquille.
Son père n'est jamais revenu. Il fait partie des victimes de cette tuerie, tout comme celui d'une autre femme rencontrée par notre correspondant. Écoutez.
Parfois, lorsque je suis en difficulté, c'est mon père qui vient à mon secours. Je sais que je peux m'appuyer sur son épaule. Mikanor a décidé de lui ôter la vie comme ça. Je réclame justice.
Des témoignages recueillis par notre correspondant à Port-au-Prince. 184 victimes donc, au moins. Ce sont les Nations Unies qui ont donné ce chiffre au début de la semaine par la voix du haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk. Il était l'invité ce matin d'Arnaud Pontus, à qui il a parlé de l'ampleur des violences en Haïti.
Si vous regardez cette année, on a déjà à peu près 5000 personnes qui étaient tuées par les gangs.
Oui, pour toute l'année 2024, depuis le début.
Pour toute cette année. En plus, il y a des atrocités qui sont commises contre les filles, qui malheureusement se sont généralisées. Oui. Moi, quand j'étais en Haïti l'année passée, j'ai rencontré des jeunes filles qui étaient violées. Et j'étais profondément choqué par ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir beaucoup plus d'attention de la part de la communauté internationale. Il faut respecter l'embargo des armes, parce qu'il n'y a aucune arme qui est produite en Haïti. Il faut aussi sanctionner ceux qui sont derrière les gangs, et c'est surtout des hommes politiques.
Vous parlez des armes et d'endiguer le flux d'armes vers Haïti. On sait que ces armes, elles circulent, elles arrivent principalement, essentiellement des États-Unis. C'est un trafic d'armes qui permet qu'elles arrivent. Comment est-ce que vous pouvez bloquer un trafic?
Alors, chaque arme, si j'ai bien compris, a des indications d'où elles sont produites. Alors, il faut investir dans l'enquête et de savoir exactement
la provenance de l'arme.
La provenance de l'arme, ou d'où est-ce qu'ils sortent, qui est derrière, et faire des mesures pour mettre en œuvre cet embargo tellement important.
On entend votre inquiétude pour Haïti, mais j'ai envie de vous dire qui se soucie d'Haïti aujourd'hui. On a l'impression que c'est un pays qui s'effondre sous nos yeux, 12 millions d'habitants, et que la communauté internationale est bien silencieuse.
Alors, c'est une tragédie. Et il ne faut pas oublier que la révolution haïtienne fait partie de l'histoire des droits de l'homme, parce que c'était justement cette révolution haïtienne qui s'est déroulée il y a plus que 200 ans contre l'esclavage, contre le colonialisme, contre le racisme, et qui était extrêmement important pour les mouvements de droits humains. Alors oui, je me demande aussi pourquoi il n'y a plus d'attention de la part de la communauté internationale à l'égard de Haïti. Par exemple, soutenir la police. La police actuellement n'a même pas les armes pour faire face aux gangs qui sont tellement bien armés. Et oui, il faut alerter chaque jour la communauté internationale qu'il y a une tragédie qui est en train de se dérouler en Haïti.
Vous sentez bien que cette alerte, ces appels sont peu entendus.
Oui, il y a au moins les Kenyans qui ont déjà envoyé...
Les Kenyans qui ont envoyé des policiers
sur place. Il en faut plus. Et il faut aussi que le Conseil de sécurité, qui a d'ailleurs pris une position là-dessus, c'est le Conseil de sécurité qui a imposé l'embargo et les sanctions, mais que ça devienne une réalité.
Que ça devienne une réalité pour mettre fin à la tragédie en Haïti, dit le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Volker Türk a parlé des conséquences particulièrement lourdes pour les femmes, pour les filles, victimes de viols systématiques de la part des gangs. Il y a au moins 40 viols par jour, selon l'ONU, qui enregistre des milliers de signalements depuis le début de l'année dans la région de Port-au-Prince. Lila Alkinuora, les Nations Unies ne sont pas les seules à s'en alarmer. L'ONG Human Rights Watch vient de publier un rapport sur la violence sexuelle.
Une situation qui ne cesse d'empirer, qui rend la vie des femmes de Port-au-Prince et de sa région infernale. Selon les travailleurs humanitaires sur place, les agressions sexuelles sont devenues monnaie courante et les habitantes sont résignées. Ils m'ont violée, mais au moins ils ne m'ont pas tuée, témoigne une victime dans le rapport de Human Rights Watch. Dans un pays en proie à une instabilité politique chronique où les gangs ont pris le contrôle de la grande majorité des zones de la capitale, les femmes n'ont pas de refuge. L'utilisation des viols est systémique. Des victimes témoignent d'agressions subies de jour, de nuit, dans la rue, mais aussi chez elles ou dans des abris pour réfugiés. Pour Nathalie Cotrino, chercheuse auprès de la division crise, conflits et armes pour l'ONG, si le sort des femmes s'aggrave, c'est parce que la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer.
On a plus de 4000 femmes et filles qui ont été victimes de violences sexuelles dans Port-au-Prince et la zone métropolitaine. Et le problème, c'est que moins de 30 personnes des établissements de santé restaient opérationnels à Port-au-Prince.
Et seulement 40% des établissements à l'échelle nationale.
Et cette défaillance du système de santé haïtien, elle est accentuée par la suspension des activités de Médecins sans frontières dans la zone métropolitaine.
Oui, les violences limitent l'accès au peu d'assistance humanitaire disponible et la fragilité des victimes augmente. L'avortement est illégal en Haïti et après leur viol, les femmes subissent des grossesses non désirées. Bien souvent précaires financièrement, elles ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants. Les victimes contractent aussi des maladies sexuellement transmissibles, en particulier le VIH, car elles n'ont pas accès au traitement d'urgence en cas d'exposition au virus. Nathalie Cotrino de Human Rights Watch prend l'exemple d'une femme séropositive dont le bébé, né d'un viol, a lui-même fini par être contaminé par le VIH.
Sa petite fille, qui a né sans le VIH, maintenant, parce qu'elle n'a pas les moyens pour acheter du lait, il doit lui donner le lait maternel, mais elle croit que peut-être elle a déjà développé le VIH et elle n'a pas les moyens pour faire un traitement.
Des témoignages d'agression plus glaçants les uns que les autres.
Beaucoup de femmes qui nous ont dit que, par exemple, ses filles et aussi les bébés inclus, ont été victimes de la violence sexuelle. Pour les membres du groupe criminel, l'âge, ça n'importe pas. C'est juste une agression pour contrôler la population, pour contrôler les femmes.
Une stratégie de la terreur qui se résume en un chiffre.
1000% d'augmentation des agressions sexuelles sur les enfants en 2023 et aucun espoir de réparation. Le système judiciaire haïtien est inopérant à Port-au-Prince pour les violeurs. L'impunité est la norme et les associations ne suffisent pas à elles seules à pallier l'absence de l'État. Human Rights Watch appelle à renforcer les capacités de la police haïtienne et à réactiver en urgence les centres de santé et les hôpitaux pour ne pas laisser les victimes seules face à ces agressions.
Lila Alkinuora, un mot encore d'Haïti pour vous dire que l'aéroport international peut de nouveau accueillir des vols commerciaux. Le ministre des Transports a confirmé au journal Le Nouvelliste que les restrictions imposées après les violences du mois dernier, ces tirs qui avaient touché des appareils, ces restrictions donc sont levées. Mais il n'est pas sûr que l'administration américaine fasse de même. Et pour l'instant, les compagnies américaines ayant suspendu leurs vols n'ont pas changé leur politique. Une fois que les vols auront repris, des policiers kényans pourraient venir renforcer la mission multinationale à Port-au-Prince. C'est en tout cas ce qu'indique le journal kényan The Star, affirmant que plus de 200 officiers de police avaient été placés en stand-by en attendant d'être déployés en Haïti.
RFI, la radio del mundo.
On va maintenant prendre la direction de l'Uruguay. Le pays a un nouveau président de gauche, élu après une campagne durant laquelle il a beaucoup été question de sécurité et de narcotrafic. Car l'Uruguay n'est plus le havre de paix de l'Amérique latine, Christophe Paget, mais une étape sur la route du trafic de cocaïne vers l'Europe.
Oui, en Europe, ces derniers mois, les saisies de drogue dans des navires en provenance d'Uruguay se sont multipliées. Dans le port de Montevideo, une tonne de cocaïne a été saisie. Comment l'Uruguay s'est-il transformé en un point de passage de la drogue vers le vieux continent ? Denis Merklen, directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine.
La répression du narcotrafic dans d'autres pays, comme notamment la Colombie, le plan Colombie, etc., et l'intensification du trafic en général, a obligé les narcotrafiquants à diversifier les routes, aller à la recherche de ports de sortie de la drogue vers l'Europe notamment. Donc, ce que les narcotrafiquants viennent chercher en Uruguay, c'est le port. C'est pas le pays, c'est pas la consommation. Le port de Montevideo est un port très important, un port qui est en train de devenir l'une des bases logistiques de la partie sud de l'Amérique du Sud. Donc il y a l'installation des cartels argentins et brésiliens notamment qui cherchent une voie de sortie.
C'est à partir de 2010 que le trafic de cocaïne a commencé à devenir un problème pour l'Uruguay, problème de plus en plus aigu ces 5 dernières années. Il faut dire, explique Denis Merklen, que la géographie du pays a rendu les choses faciles pour les narcotrafiquants.
L'Uruguay a deux immenses frontières, l'une avec l'Argentine et l'autre avec le Brésil. Et ce sont des frontières très poreuses, très difficiles à contrôler. Ce sont simplement des champs de la Pampa. Il n'y a pas d'accident géographique permettant de mieux contrôler. Il y a un fleuve et des ponts. Et de l'autre part, l'Uruguay est un pays qui est un immense pampa peuplé des grandes propriétés terriennes où la population de l'Uruguay se concentre dans la ville de Montevideo, autour du port et dans la côte. Et donc à l'intérieur, il y a des vaches et des plantations de céréales. C'est très facile d'arriver dans des petits avions, d'atterrir dans des propriétés immenses habitées par personne et de stocker la drogue. Ce qu'on sait, c'est que l'Uruguay est actuellement un espèce de dépôt de drogue qui attend à être exporté.
Et la drogue ne fait pas que passer par l'Uruguay, hein, le trafic y prend aussi racine, Christophe.
Oui, car les cartels ont besoin en quelque sorte de personnel local pour stocker la drogue, pour la transporter, des criminels qui se font payer avec de la drogue, qu'ils revendent ensuite à de petits trafiquants dans les quartiers populaires, une drogue qui est en fait un résidu de la cocaïne, la pasta base.
Ce résidu est beaucoup plus bon marché. C'est une drogue du pauvre très puissante qui produit une forte addiction et qui a des dégâts durables sur la santé des consommateurs. Cette pasta base, la pâte de base, on n'a pas de chiffres précis de la consommation. Mais tous ceux qui faisons du terrain dans les quartiers populaires de l'Uruguay, nous savons que ça augmente beaucoup, et que, y compris c'est produit localement. Une dernière partie du processus est faite dans les quartiers.
Donc cette présence nourrit le trafic local, la violence aussi qui augmente et l'insécurité.
Alors qu'ont fait les gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'Uruguay pour lutter contre ce problème de plus en plus important ? Emiliano Rojido, sociologue spécialisé dans la violence, la criminalité et les politiques publiques.
Le dernier gouvernement de centre-droit a surtout combattu les groupes criminels locaux, investissant beaucoup d'argent et d'énergie pour fermer les points de vente de drogue, les bocas. Ce qui n'est pas très logique parce que d'autres bocas apparaissent dans les minutes qui suivent. Tout cela génère de la violence entre les États et ces groupes. Tout cela génère de la violence entre les États et ces groupes, mais aussi entre les groupes eux-mêmes pour le contrôle de ces points de vente. Les gouvernements précédents de centre-gauche avaient eux aussi un discours de guerre contre la drogue et les groupes criminels, peut-être dans une moindre mesure, combiné avec l'idée qu'en améliorant les indicateurs sociaux, l'emploi, l'éducation, etc., cela réduirait automatiquement la criminalité. Ce qui n'a pas été le cas. Les indicateurs économiques se sont améliorés, mais la criminalité, elle, a augmenté.
Emiliano Rojido estime également que pour les politiques, le crime organisé et le trafic de drogue sont devenus un bouc émissaire bien pratique pour tous les problèmes de sécurité que connaît le pays.
Et que préconise le nouveau président de gauche qui prendra ses fonctions dans quelques semaines ?
Yamandou Orsi propose entre autres la création d'un organe de répression de la drogue qui lutte contre le trafic international, les cartels, et sur le plan intérieur, une politique plus sociale du traitement de la petite délinquance. L'Uruguay a aujourd'hui le taux d'incarcération le plus élevé d'Amérique du Sud.
Dossier signé Christophe Paget.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, on vous retrouve Benoît Ferrand pour parler d'abord de la Martinique. L'aéroport international Aimé Césaire s'agrandit et se modernise.
20 000 mètres carrés supplémentaires et des installations rénovées, le tout avec en ligne de mire un objectif, les 3 millions de passagers annuel. Reportage Alain Livory, la première Martinique.
L'aéroport Aimé Césaire se met aux normes internationales. Il a doublé sa surface avec 20 000 m² supplémentaires. L'objectif est d'accueillir les passagers dans de meilleures conditions. Nathalie Sébastien, la présidente du directoire de la SAMAC.
On avait des processus qui étaient très contraints. Une salle d'embarquement qui était réduite avec des conditions d'accueil qui étaient dégradées. Et le passage en fait au contrôle police et puis sûreté qui était également extrêmement dégradé et très long. Et c'est vrai que les conditions d'accueil des passagers n'étaient plus acceptables au regard des standards et puis pour le respect des Martiniquais qui voyagent et des touristes qui viennent visiter la Martinique.
La modernisation du traitement des bagages va réduire le temps d'attente à l'enregistrement. David Chenvet, chef d'escale à Air France.
Ça va nous aider à avoir des possibilités d'extension sur des lignes nouvelles et ça c'est important.
Avec cette extension qui aura coûté 110 millions d'euros, l'aéroport est aujourd'hui dimensionné pour accueillir 3 millions de passagers. Pour les 9 premiers mois de cette année, il aura accueilli 1,5 million de passagers, pas loin du record de 2 millions qui avait été franchi en 2019.
Direction la Guadeloupe avec le baromètre trimestriel de l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Un baromètre qui confirme un état de santé économique, on va dire, pas très vaillant. Des chiffres que nous commente Chantal Horn.
Les professionnels du secteur du commerce et du tourisme constatent une clientèle moins incline à dépenser. Dans le secteur primaire, celui des industries, y compris agroalimentaire, et celui des services marchands, hors tourisme, les chefs d'entreprise observent une activité moindre. Dans le secteur du BTP, elle ralentit. Les chefs d'entreprise sont pessimistes quant à la fin de l'année 2024. Leurs indicateurs financiers devraient à nouveau se dégrader. Ils poursuivent les investissements en cours et limitent les nouveaux projets. Toutefois, ils comptent maintenir leurs effectifs et estiment pouvoir accroître leurs prix au quatrième trimestre 2024. Le climat des affaires recule, moins 6,3 points, une évolution principalement attribuable à une dégradation de l'activité. Une détérioration de la trésorerie, une hausse des charges d'exploitation ainsi que les délais de paiement allongés pèsent sur le moral des chefs d'entreprise interrogés.
Chantal Horn de la première Guadeloupe. Bon après-midi Anne. À demain.
À demain Benoît Ferrand. De la musique avant de se quitter avec le producteur britannique Touriste qui sera en concert ce soir à Montréal. Voici le morceau Plus One. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, 11h30, temps universel. Cette émission a été réalisée par Vincent Biteau. Et vous restez à l'écoute dans quelques secondes maintenant de vive voix. On va parler langage et perte de sens avec Nathalie Amar et son invité Clément Viktorovitch. Très bonne journée à tous.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrandt.
Plus de 47 000 Libanais sont exilés en Allemagne. Ils suivent avec anxiété la situation au Proche-Orient. Parmi eux, le dessinateur de presse Bernard Hage. Après avoir connu la censure du Hezbollah au Liban, à Berlin, il fait face à un autre défi, celui d'évoquer librement la politique du gouvernement israélien.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.